Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 12. L'Empire et le peuple. Troisième partie. En mai 1898, Armor & Company, la plus grande entreprise d'abattage de Chicago, vendit à l'armée 500 000 livres de bœuf qui avaient été expédiés à Liverpool l'année précédente et en étaient revenus depuis. Deux mois plus tard, un inspecteur de l'armée vérifiant la viande fournie par Armor, enregistrée et approuvée au préalable par un inspecteur du service vétérinaire de l'alimentation, trouva 751 caisses contenant de la viande avariée. Dans les 60 premières caisses ouvertes, il découvrit 14 conserves périmées, dont le contenu putréfié s'était répandu partout. Cette description provient du rapport de la commission d'enquête sur le comportement du département à la guerre pendant la guerre hispano-américaine, présenté au Sénat en 1900. Des milliers de soldats furent victimes d'intoxication alimentaire. Nous ne connaissons pas le nombre de ceux qui, parmi les quelques 5000 morts de cette guerre, moururent de ces intoxications. Les forces espagnoles furent battues après trois mois de ce que John Hay, le secrétaire d'État américain, qualifia de « jolie petite guerre ». Les autorités militaires américaines prétendirent que l'armée cubaine rebelle n'existait pas. Lorsque les Espagnols rendirent les armes, aucun Cubain ne fut autorisé à prendre part à la reddition ni à la signer. En même temps que l'armée américaine, le capital américain investissait Cuba. Avant même que le drapeau espagnol eût cessé de flotter sur Cuba, les intérêts d'affaires s'arrangèrent pour y étendre leur influence. Les négociants, les agents fonciers, les spéculateurs boursiers, les aventuriers sans scrupules et les promoteurs avides de faire rapidement fortune s'abattirent sur Cuba par milliers. Sept trusts s'empoignèrent pour le contrôle des franchises sur la Havana Street Railway, qui furent finalement accordées à Percival Farquhar, représentant des intérêts de Wall Street. Ainsi, en même temps que l'occupation militaire de Cuba, se mettait en place son occupation commerciale. La Lumberman's Review, organe de l'industrie du bois, déclarait en pleine guerre. Aussitôt que l'Espagne aura lâché les rênes du pouvoir à Cuba, le temps sera venu pour les intérêts de l'industrie du bois américaine de s'installer dans cette île afin d'en exploiter les produits forestiers. Cuba possède 4 millions d'hectares de forêts vierges, riches en bois de bonne qualité, dont la quasi-totalité trouverait preneur aux États-Unis et à des prix élevés. Dès la guerre finie, les Américains s'emparèrent des chemins de fer, des mines et des exploitations sucrières. En quelques années, 30 millions de dollars de capital américain y furent investis et la United Fruit s'introduisit dans l'industrie sucrière cubaine. Elle acheta 1 700 000 hectares de terre à 50 cents l'hectare. L'American Tobacco Company s'y mit, elle aussi. Fauner estime qu'à la fin de l'occupation américaine, en 1901, au moins 80% des exportations des minerais cubains étaient dans des mains américaines, et en particulier aux mains de la Bethlehem Steel. Les États-Unis n'annexèrent pas Cuba, mais avertirent la Convention constitutionnelle cubaine que l'armée américaine ne quitterait pas Cuba tant que l'amendement P plate, votée par le Congrès américain en février 1901, ne serait pas intégrée à la nouvelle Constitution. Cet amendement autorisait les États-Unis à intervenir en faveur de la sauvegarde de l'indépendance cubaine et du maintien d'un gouvernement attaché à la protection de la vie, de la propriété et de la liberté individuelle. Il offrait également aux États-Unis la possibilité d'installer des bases navales et des concessions minières en certains points spécifiques de l'île. L'amendement Taylor et la question de la liberté de Cuba avant et pendant la guerre avaient permis aux Américains et aux Cubains d'envisager une indépendance véritable. C'est pourquoi l'amendement Platt fut considéré par la presse ouvrière et radicale, comme par certains groupes et journaux à travers tout le pays, comme une trahison. Un important rassemblement organisé au Faneuil Hall de Boston par la Ligue américaine contre l'impérialisme dénonçait cet amendement. L'ex-gouverneur George Boutwell déclara « Au mépris de nos engagements en faveur de la liberté et de l'indépendance de Cuba, nous imposons à cette île des conditions de servilité coloniale. » La Convention, après plusieurs refus, adopta finalement l'amendement Platt. Le général Leonard Wood écrivit à Theodore Roosevelt en 1901 qu'avec l'amendement Platt, il ne restait plus rien, presque, de l'indépendance cubaine. C'est ainsi que Cuba fut rattaché à la sphère d'influence américaine, sans toutefois devenir une colonie affichée. La guerre hispano-américaine entraîna néanmoins quelques annexions territoriales de la part des États-Unis. Puerto Rico, pays voisin de Cuba dans la Caraïbe et qui appartenait aux Espagnols, fut envahi par les forces américaines. Hawaï, dans le Pacifique, qui avait déjà été investi par les missionnaires américains et par les propriétaires de plantations d'ananas, qui avait été décrit par les milieux officiels américains comme un fruit mûr, prêt à être cueilli, fut annexé par décision du Congrès en juillet 1898. À peu près à la même époque, l'île de Wake, à 2300 miles à l'ouest de Hawaï, sur la route du Japon, fut occupée, elle aussi. Et Guam, dans le Pacifique, possession espagnole aux portes des Philippines, fut prise également. En décembre 1898, le traité de paix signé avec l'Espagne confia officiellement aux États-Unis, contre une somme de 20 millions de dollars, Guam, Puerto Rico et les Philippines. On discuta âprement aux États-Unis de l'opportunité de s'emparer également des Philippines. On raconte que le président McKinley aurait déclaré à un groupe de visiteurs à la Maison-Blanche comment il prit sa décision. Avant que vous ne partiez, je voudrais juste vous dire un mot sur l'affaire des Philippines. En vérité, je ne voulais pas des Philippines. Et lorsqu'elles sont venues à nous comme un cadeau des dieux, je ne savais pas quoi en faire. Je cherchais conseil de tous les côtés, chez les démocrates comme chez les républicains, mais cela ne m'aida pas beaucoup. Je pensais d'abord qu'il nous suffirait de prendre Manille et Luçon et d'autres îles peut-être. J'arpentais les couloirs de la Maison Blanche tous les soirs jusqu'à minuit, et je n'ai pas honte de vous confier, messieurs, que plus d'une nuit, je me suis agenouillé et j'ai prié le Dieu Tout-Puissant de m'apporter lumière et soutien. C'est ainsi qu'une nuit, la solution m'est apparue. Je ne sais pas comment, mais c'est venu. Premièrement, on ne pouvait pas rendre les Philippines aux Espagnols. C'eût été lâche et déshonorant. Deuxièmement, on ne pouvait pas les confier à la France ou à l'Allemagne qui sont nos concurrents en Orient. C'eût été commercialement une faute et nous nous serions discrédités. Troisièmement, on ne pouvait les abandonner à leur propre sort. Ils sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Cela aurait été rapidement l'anarchie et la situation aurait été pire que sous l'autorité espagnole. Quatrièmement, il ne nous restait donc plus qu'à les prendre et à éduquer les Philippins, à les élever, à les civiliser et à les christianiser. Bref, avec l'aide de Dieu, à faire au mieux pour eux qui sont nos semblables, pour lesquels Christ est également mort. Alors je suis allé me coucher et j'ai dormi d'un sommeil profond. Les Philippins, semble-t-il, n'avaient pas reçu le même message divin. En février 1899, ils se soulevèrent contre le pouvoir américain comme ils l'avaient fait plusieurs fois contre les Espagnols. Emilio Aguinaldo, un chef philippin qui avait été ramené de Chine par la marine américaine pour prendre la tête des soldats dans la lutte contre l'Espagne, devint le leader des insurgés anti-américains. Il proposa l'indépendance des Philippines dans le cadre d'un protectorat américain. Sa proposition fut refusée. Les États-Unis mirent 3 ans à venir à bout de cette révolte avec 70 000 soldats, 4 fois plus qu'à Cuba, et des milliers de pertes au combat, bien plus qu'à Cuba. Ce fut une guerre très dure. Chez les Philippins, il y eut un nombre de morts également impressionnant, tant du fait des combats que des maladies. Désormais, le goût de l'Empire possédait aussi bien des politiciens que les milieux d'affaires à travers tout le pays. Le racisme, le paternalisme et les questions de profit se mêlaient au discours sur la destinée et la civilisation. C'était une époque de racisme intense aux États-Unis. Entre 1889 et 1903, 2 Noirs en moyenne étaient assassinés chaque semaine, pendus, brûlés vifs ou mutilés. Les Philippins avaient la peau sombre, présentaient des caractéristiques physiques spécifiques, parlaient un drôle de langage et semblaient étranges aux yeux des Américains. À la brutalité aveugle habituelle de la guerre venait donc s'ajouter le facteur de l'hostilité raciale. En novembre 1901, le correspondant du Ledger de Philadelphie à Manille rapportait « La guerre actuelle n'est pas une guerre d'opérette menée en gants blancs. Nos hommes ont été impitoyables. Ils ont tué, pour exterminer hommes, femmes, enfants, prisonniers et otages, rebelles avérés et individus suspects de plus de 10 ans. L'idée qui a prévalu est qu'un Philippin, en tant que tel, n'a pas plus de valeur qu'un chien. Nos soldats ont fait ingurgiter de l'eau salée à des individus pour les faire parler. Ils ont également fait prisonniers des individus qui se rendaient pacifiquement, les mains en l'air, et 1 heure plus tard, sans un atome de preuve qu'il s'agissait bien là d'insurgés, les ont emmenés sur un pont et les ont abattus les uns après les autres. Pour finir, ils les ont jetés dans la rivière, les laissant aller au fil du courant, afin qu'ils servent d'exemple à ceux qui découvriraient leur corps criblé de plomb. Mark Twain écrivit au sujet de cette guerre. Nous avons pacifié des milliers d'insulaires et les avons enterrés. Nous avons détruit leurs champs, incendié leurs villages et expulsé leurs veuves et leurs enfants. Nous avons mécontenté quelques douzaines de patriotes désagréables en les exilant, soumis la dizaine de millions qui restaient par une bienveillante assimilation. Pieux euphémisme pour parler des fusils. Nous avons acquis des parts dans les 300 concubines et autres esclaves de notre partenaire en affaires, le sultan de Sulu, et finalement hissé notre drapeau protecteur sur ce butin. Et ainsi, par la providence de Dieu, l'expression est du gouvernement et non de moi. Nous sommes une puissance mondiale. La puissance de feu des Américains était très largement supérieure à tout ce que les rebelles philippins pouvaient lui opposer. Dès la toute première bataille, l'amiral Dewey remonta la rivière Pasig et tira des obus de 500 dans les tranchées philippines. Les morts philippins étaient empilés à une telle hauteur que les Américains s'en servaient comme des parapets de tranchées. Un témoin anglais s'indigna. « Ce n'est pas une guerre, c'est une boucherie criminelle !» Il se trompait. Il s'agissait bien d'une guerre. Les rebelles, confrontés à cette effroyable violence, parvinrent à résister durant toutes ces années, car ils bénéficiaient du soutien de la population. Le général Arthur MacArthur, responsable de la conduite de la guerre aux Philippines, déclarait qu'il pensait que les troupes d'Aguinaldo ne représentaient qu'une fraction de la population. « Je ne voulais pas imaginer que l'ensemble de la population de Luzon, c'est-à-dire la population indigène, était contre nous. » Mais il reconnaissait aussi qu'il avait été obligé malgré lui de l'admettre, car la tactique de guérilla de l'armée philippine reposait sur une presque parfaite unité d'action de la population indigène dans son ensemble. Malgré les preuves de plus en plus criantes des brutalités commises et les travaux de la Ligue anti-impérialiste, quelques syndicats ouvriers soutenaient l'action armée aux Philippines. Le syndicat des typographes déclarait apprécier l'idée d'annexer un nombre accru de territoires où l'installation d'écoles anglophones profiterait au secteur de l'imprimerie. La revue des ouvriers du verre espérait que les nouveaux territoires se fourniraient en verre. Les confréries des chemins de fer jugeaient que l'expédition des produits américains dans les nouveaux territoires signifierait plus de travail pour les compagnies ferroviaires. Certains syndicats reprenaient même le discours des milieux d'affaires. L'ouverture d'un marché aux excédents de la production américaine permettrait d'éviter une autre crise économique. Lorsqu'on discuta au Congrès du traité d'annexion des Philippines au début de 1899, les Central Labor Unions de Boston et de New York s'y opposèrent. Un grand rassemblement fut organisé à New York contre l'annexion. La Ligue anti-impérialiste fit circuler plus d'un million de publications en tout genre contre l'annexion des Philippines. Selon Fauner, si la Ligue était, de fait, dominée et organisée par et autour de quelques intellectuels et hommes d'affaires, une très large fraction de ses quelques 500 000 membres était issue du milieu ouvrier, femmes et noirs compris. Les comités locaux de la Ligue tinrent des réunions partout à travers le pays. La campagne contre le traité d'annexion fut très importante. Le Sénat ne le ratifia qu'à une voix près. Les réactions mitigées de la classe ouvrière face à la guerre, séduite par les avantages économiques qu'elle promettait, mais néanmoins choquée par la violence et l'expansion capitaliste, garantissait qu'elle ne s'unirait pas pour faire cesser la guerre, ni pour conduire une guerre de classe contre le système sur le sol même des États-Unis. Cette politique expansionniste serait encore plus séduisante si elle pouvait passer pour un acte de générosité, comme venir en aide aux rebelles souhaitant se débarrasser d'une domination étrangère, par exemple à Cuba. En 1898, les rebelles cubains luttaient depuis déjà 3 ans pour leur indépendance. Il était encore possible à cette époque de créer un engouement national en faveur d'une intervention américaine. Il semble qu'au départ, les milieux d'affaires n'aient pas voulu d'une intervention militaire à Cuba. Tant qu'ils pouvaient obtenir le libre accès aux marchés extérieurs, les négociants américains n'avaient pas besoin de colonies ou de guerres de conquête. Cette idée de la porte ouverte devint au XXe siècle le thème dominant de la politique étrangère des États-Unis. Il s'agissait d'une approche de l'impérialisme certainement plus sophistiquée que la traditionnelle construction impériale pratiquée par les Européens. Selon Eppelmann Williams, ce débat national est généralement considéré comme une bataille entre les impérialistes, menés par Roosevelt et Lodge, et les anti-impérialistes, menés par William Jennings Bryan et Carl Schurz. Pourtant, il serait plus juste et plus pertinent de considérer qu'il s'agissait d'un combat entre 3 factions. Le troisième groupe était composé d'hommes d'affaires, d'intellectuels et de politiciens qui s'opposaient au colonialisme traditionnel et défendait une politique de la porte ouverte à travers laquelle la puissance économique prépondérante de l'Amérique pénétrerait et dominerait toutes les régions sous-développées du globe. Néanmoins, cette préférence affichée par certains groupes d'affaires et quelques politiciens pour ce qu'Appelman Williams appelle « l'empire informel » sans guerre était toujours sujette à révision. Si l'impérialisme pacifique s'avérait être impossible, il devenait nécessaire d'avoir recours à l'intervention militaire. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.